says, follow me and sing along. Oh, we're gonna sing a song about you, girl. I left home so I can find you. Show you're not the only one to fall in love. It's okay, we all have rhythms to play. How only if we didn't say.
On va dire que dans le film, il y en a une sur cette île qui est plutôt, à mon sens, une représentation de la mort, en fait, parce que la mort est omniprésente, la condition qu'on a d'humain aussi est là. Et ça m'a fait penser au septième saut, si vous voyez la référence de la mort qui joue aux échecs, et ainsi de suite. Ouais. Bon, bah là, la banshee qu'on voit dans ce film, c'est un peu le mash-up parfait entre les bigoudens de la pub Tipiak et la mort du septième saut. Mais vraiment, c'était. Alors, elle est là, l'omniprésente, et elle accompagne les personnages. Alors, évidemment, film, comment dire, irlandais, d'un réalisateur que vous connaissez, puisque c'est le même réalisateur, Martin McDonagh, me semble-t-il, qui a fait Bon Baiser de Bruges. Et on y retrouve des acteurs que vous connaissez, bien sûr, Colin Farrell, et puis... alors
Brendan Gleeson.
Exactement. Et une actrice qui joue la sœur de...
Kerry Condon.
Qui est vraiment sublimissime. Enfin, le film traite d'une histoire d'amitié. Imaginez-vous, vous êtes là, vous avez votre meilleur ami sur une toute petite île, et cet ami décide un jour de tout simplement ne plus vous adresser la parole. Du jour au lendemain, vous étiez encore la veille avec lui en train de trinquer quelques mousses, habituellement, vous voyez, il n'y a pas forcément grand-chose à faire sur une île en Irlande, un peu à part comme ça. Et vous allez le voir, et là vous vous rendez compte qu'il ne veut plus vous adresser la parole, alors que finalement c'était votre seul pilier. Et finalement le film traite de ça. Enfin, on essaie un petit peu de savoir, d'aller un petit peu comprendre pourquoi ce refus d'un coup du meilleur ami. Et tout simplement, c'est un film de taiseux, hein, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de, ça peut être même parfois un peu contemplatif, mais il y a pas mal de sujets qui sont traités. En fond, il y a aussi la guerre, bien sûr, forcément en Irlande. Et si vous voulez, ces deux amis qui se déchirent même pas, du coup, parce qu'il y en a un qui refuse de parler, tout simplement, c'est encore pire finalement, il y a un silence face à soi, ça fait aussi un peu penser aux frères ennemis irlandais qui sont, c'est un peu à cette image-là. Et puis, comme je vous disais, la banshee, donc, qui est un peu oracle, hein, elle annonce un peu des morts, et puis elle est habillée tout de, comme je vous disais, hein, elle est en noir, et elle est toute blanche, elle annonce des morts, et elle est là tout le temps, pendant tout le film, et l'accompagne, elle va un petit peu se frotter au protagoniste. Parfois même, ils évoquent le fait qu'ils essaient de s'en cacher. À chaque fois, quand elle vient à la maison, ils s'en cachent parce qu'ils n'ont pas envie de lui parler. Comme finalement, tout un chacun essaie de se cacher de la mort, finalement. Et il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont évoquées dans le film. Et les acteurs sont vraiment très, très bons. On passe un super, super moment. Ça passe vraiment trop vite, parce que je crois qu'il doit durer à peu près 2 heures, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, 1h50. Et voilà, j'ai été vraiment très, très, très agréablement surpris par ce film, que je vous recommande vivement, tout simplement.
Les Banshees d'Inisherin.
Ouais, exactement. Ça a l'air vraiment très, très bien. Et c'est vrai que tu nous as vraiment lancé deux mystère, quoi. Cette banshee et le silence de cet ami, ouais. Étonnant.
Alors, ami qui, je veux pas évidemment trop en dire, mais ami qui met un ultimatum assez original à cet autre ami, enfin, c'est devenu ennemi en quelque sorte. Et si tu continues à me parler, je te préviens, je vais faire quelque chose d'assez surprenant. Et allez voir déjà ce truc assez troublant, et surtout s'il s'y tient. Vraiment, je vous recommande ce film.
Excellent.
Oui, moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait très envie, mais ça a l'air mystérieux. Et...
Est-ce que dans la bande-annonce, je pourrais peut-être le dire du coup, ouais. Est-ce qu'on voit ce qu'il menace de faire si jamais?
Non, je m'en souviens pas en tout cas.
D'accord.
D'accord, non, je crois pas.
Ok, alors je le dis pas. D'accord. Mais je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment exceptionnel. Et j'oublie encore des choses, bien sûr, hein, mais vraiment ce film, puis même rien que pour la sœur Et Colin Farrell, je pense qu'il faut y aller, vous allez tomber amoureux, c'est obligé.
Donc il y a celui qui ne veut plus parler à son copain, quoi, mais, oui. Mais du coup, son copain, lui, il essaye d'entreprendre un petit peu, de réparer la relation.
Mais évidemment, il essaie de toutes les manières. Au début, il ne comprend pas, il est simplement affecté. Après, il essaie par la violence. Mais au final, après, c'est une interprétation. Puisque, comme je vous dis, la Banshee, c'est une sorte d'oracle, sorcière, mais qui représente la mort omniprésente au milieu des vivants, comme ça. Mmh. Et puis, cette île, ils sont un petit peu en autarcie, comme ça. Comme parfois on peut être enfermé dans sa propre vie et attendre inéluctablement que le destin nous amène vers cette mort.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un film métaphysique ?
Oui, parce que finalement, absolument, on peut y trouver plein de clés. Moi, j'en ai trouvé plein. Alors, j'en ai pas fait la liste, mais rien que l'ami qui refuse de parler du jour au lendemain à son autre ami. Moi, l'explication que j'en ai, sans évidemment le dire,
parce
que le film ne le dévoile pas. Chacun s'en fera sa propre interprétation. C'est, vous voyez, à un moment, vous vous sentez enfermé dans votre vie parce que vous sentez que les choses reviennent inlassablement. Mmh. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, ça vous renvoie à la mort, quoi. C'est-à-dire que quand tout se ressemble, quand rien ne change, ça vous renvoie finalement à votre finitude. Et cette relation qu'il a avec son ami, finalement, il arrive à cristalliser, à mon sens, pour lui, l'image de sa mort à venir, quoi, en quelque sorte. Mmh. Et il veut marquer le changement pour justement, quelque part, s'en éloigner, comme l'ami en question est conduit, essayer de s'éloigner de la Banshee à chaque fois qu'il la voit, ou même sa sœur qui parle avec elle, mais en même temps qui s'en cache parfois. Il y a toujours cette idée-là d'humanité, de finitude, et puis de notre rapport à la mort, rapport à l'amitié, rapport à la famille. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment un truc à clé. Et en plus de ça, les acteurs sont excellents, donc vraiment, il faut y courir.
J'en parle très bien, Romain.
Bah, écoutez, mais je rêve, vous faites de la philo, les gars. Là.
Ah, mais on
en met un sur les auditeurs. Vous êtes bien dans Bang Geek Mafia. Hein. On fait de la philo.
Mais bien sûr.
Et d'ailleurs, on va continuer à faire de la philo avec toi, Pablo, parce qu'il y a en ce moment le festival Premier Plan. Merci Romain, hein. Moi je vais aller le voir grâce à toi.
Ouais, moi aussi.
C'est le festival Premier Plan, tu as vu El Reino.
Alors j'ai vu El Reino de...
Irigoyen.
De Sorogoyen.
Sorogoyen,
Rodrigo Sorogoyen, qui est l'invité d'honneur avec Mia Hansen-Love. Donc sur toute la semaine. Et vraiment, auditeurs et auditrices, je vous invite à aller voir quelques toiles, voilà, du côté donc de ce super festival Premier Plan. Alors, El Reino, c'est vraiment un film qui va à 100 à l'heure, qui commence déjà, au départ, on a l'impression qu'on arrive sur une plage de façon assez contemplative, avec quelqu'un qui est habillé en costume, qui est au téléphone, et tout de suite, on a une petite musique électro qui commence avec un beat assez puissant. Et ça donne tout de suite le ton, caméra à l'épaule, et là on sent que voilà, on est pris dans un rythme qui va être frénétique et qui va monter crescendo en puissance et puis en intensité.
C'est un thriller, quoi.
C'est un thriller politique. Mmh. Et sur sur la corruption en Espagne, donc qui est parti de faits divers, mais qu'il se permet, Sorogoyen, de traiter de façon assez ouverte. Et c'est vraiment très très intéressant, une très belle esthétique.
Un film récent, hein, je crois.
Ouais, récent. Il est de
2018.
2018, c'est ça. Et alors voilà, Sorogoyen, toi tu avais parlé de Asbestas l'année dernière, donc qui est sorti cet été. Donc vraiment un cinéaste à découvrir. Et voilà, donc je vous invite vraiment à aller découvrir à la fois son cinéma, puisqu'il est à l'honneur, voir des courts-métrages, Mia Hansen-Love aussi, qui est une jeune réalisatrice hyper intéressante. Voilà.
Cool. Allez au cinéma.
Ça donne envie, clairement.
Allez au cinéma.
Il y a Babylone aussi, hein, dans les choses à voir.
Ouais, ça, il paraît que ça a l'air aussi.
Oui, avec Brad Pitt et Margot Robbie
entre autres. Ouais. Franchement, je pense que je vais y aller rapidement.
Ça me fait envie aussi. Ouais. Bon, merci les gars.
Génial.
On écoute un petit peu de musique. Alors, on pourrait écouter Thundercat, par exemple, si ça vous dit.
Allez.
Le grand Paul m'a fait découvrir ça. C'est vachement bien. C'est dans Bandkick Mafia sur Radio G.
On le salue, on l'embrasse.
Ça sera point 100 dans la radio. Give it.
C'était Thundercat dans Band Geek Mafia. Merci Gao Grand Paul de m'avoir fait découvrir cet artiste
sympa,
incroyable.
C'est, cool.
C'est un bassiste, il a joué dans plein de groupes de musique différents et maintenant il sort des albums solo. Voilà.
Ouais, c'est très soul.
C'est, ouais, c'est soul, c'est jazz, c'est un peu expérimental. Enfin, moi j'aime bien.
Creature Shock Radio FM.
Alors Pablo, de quelle série vas-tu nous parler ?
Alors je vais vous parler d'une série qui est très connue. Vikings, la saison 6 finale. Alors on écoute un petit peu de du générique mythique. Alors les amis, donc une série évidemment 2019. Alors là pour la saison en fait 6 2019-2020 qui a été fait en deux moments actuellement sur Netflix, créé par Michael Hirst. C'est un adieu aux héros du Midgard, la terre des humains, de la série. Des adieux qui se prolongent mais qui nous font battre le cœur une dernière fois. Je vous rappelle le synopsis de la saison 6. Hein. La guerre est déclarée entre les frères ennemis afin de régner sur la Norvège. Alors que Bjorn a du mal à assumer la succession de son père, il est malgré tout prêt à tout défendre et à tout défendre pour son territoire. Ivar, de son côté, a soif de vengeance et ne compte pas céder le trône aussi facilement. Il crée une alliance avec le prince Oleg à Kiev, dans l'ancienne Russe, pour attaquer Kattegat. Qui deviendra roi de Norvège ? Et d'autres explorations nous attendent-elles après la découverte de l'Islande ? Voilà, c'est vrai que la série prend ses aises et s'éternise un peu à chaque saison. Chaque saison est composée de 20 épisodes, mais elle permet au moins d'approfondir certains personnages et certaines situations. La saison qui clôt la série est un adieu à ces personnages, celles et ceux qui nous ont fait vibrer. Lagertha, la guerrière au bouclier, Bjorn, côte de fer, Ubbe, Torvi, Alfred. Celles et ceux qui nous ont énervés, Vitserk, drogué et lâche, Harald à la belle chevelure, menteur et violeur, et ceux dont l'ambiguïté fait tout le piment de la série, Ivar le désossé, Floki le constructeur de Drakkar. Chacun et chacune a sa place et jouera son rôle jusqu'au bout. Vous verrez encore des combats épiques, des trahisons et des alliances imprévues, des morts héroïques, et de belles retrouvailles en terres inconnues. Les épisodes sont inégaux. Certains ne sont là qu'en préparation des suivants et des plus importants. Ces derniers sont puissants en action et en émotion, sans compter qu'ils nous réservent quelques surprises. Du coup, je ne boude pas mon plaisir. Vikings est une belle série, puissante et épique, qui a révélé des personnages iconiques. Ragnar Lodbrok, Lagertha, Athelstan, Floki, Rollo, Ivar. Elle nous plonge au cœur d'un Moyen-Âge fait de lumière et d'ombre, au cœur des batailles religieuses. Car Vikings n'est pas seulement une série historique et politique, c'est aussi une série où la religion est centrale. Une série qui interroge sans cesse la croyance et notre rapport à la religion. À l'époque, tout le monde est croyant ou peu s'en fout. À la fin de sa vie, Ragnar fera part de son scepticisme tout de même. Tout le monde est croyant, mais surtout, nombreux sont les militants de leur foi, prêts à mourir pour elle, prêts à sacrifier d'autres humains à leur dieu. Or, Ce 9e siècle marque bientôt la fin d'une époque faste de la civilisation viking. Avec ses conquêtes et ses explorations extraordinaires, avec eux s'achève le crépuscule des dieux païens et voit l'avènement du christianisme, pour le meilleur et pour le pire. Justement, en regardant la série, je me posais cette question que je vous livre. Les religions sont-elles source de culture ou de violence? Vous avez 4 heures. Donc, je vous recommande la saison 6 de Vikings pour un final en beauté, un dernier combat épique et glorieux qui vous fera peut-être entrevoir le Valhalla. Mais avant, je trinque avec vous et vous dis Skål.
Ah,
eh ben, super, à la tienne. Ça donnait vraiment envie. Mais peut-être les deux, hein, c'était la réflexion qu'on se faisait. Est-ce que tu parlais ou de violence ou de culture? Bah, les deux, mon capitaine.
Eh ben, je crois aussi. Hein.
Oui.
Ouais.
Super, merci Pablo.
Et merci à vous.
Et ne pas confondre Ragnar Lodbrok et Ragnar le Breton. C'est pas tout le même. Hein.
C'est pas le même.
C'est pas le même.
Alors moi, je vais complètement changer d'ambiance.
Allez. C'était sympa en tout cas.
Let's go.
Je vais peut-être changer la musique, parce que là on est vraiment... Quoique, on pourrait peut-être écouter ça, rien. C'est dans Viking aussi.
Yo.
Alors moi, c'est pas du tout la même ambiance. On va aller carrément en France, aujourd'hui, mais dans une espèce d'utopie. Hein. C'est En Place, avec Jean-Pascal Zadi sur Netflix. Alors c'est l'histoire d'un éducateur de banlieue, en banlieue parisienne, qui arrive au second tour des présidentielles. Mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir? Moi aussi, j'ai cette question, vous avez 4 heures. Donc pour l'instant, c'est la première saison de En Place, avec Jean-Pascal Zadi, Éric Judor, Benoît Poulvorde, Fadili Camara. Et moi, je vous conseille vraiment cette mini-série. Hein, il y a 6 épisodes dans cette première saison. C'est une excellente série satirique sur le monde politique d'aujourd'hui. Un casting au top, hein, je vous le disais, des répliques qui font mouche évidemment, et puis des bons moments, des fous rires. Je vous la recommande, c'est vraiment marrant, c'est original, c'est spontané en fait. Si vous avez vu Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi ou carrément Craignos, une autre série qu'il avait faite auparavant, c'est très frais. C'est voilà, moi je trouve que en plus c'est drôle, c'est bien fait et ça pose des questions.
Ouais, des vraies questions.
Des vraies questions aujourd'hui. Est-ce que c'est possible d'avoir un président noir en France? Est-ce que c'est possible d'avoir une femme aussi présidente de... Parce que ça évoque aussi ça dans la série. Ça égratigne bien toutes les mouvances politiques de gauche comme de droite d'ailleurs actuelles. Mais bon, Zadi, Judor et Poulvorde, ils sont quand même extra, quoi. On les connaît, ils sont drôles. Et la réalisation, c'est assez proche du reportage en fait. Mais c'est assez efficace. Voilà. Donc si vous avez envie de rire, c'est bien joué. Je vous le conseille, voilà, En Place sur Netflix.
Eh ben merci, parce que
ça donne envie. Oui, ça donne envie. On met en parallèle les deux séries directement, ça peut être pas mal aussi.
Clairement, parce que c'est une série politique. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait plus que 4 heures, à mon avis, en France, pour avoir un président noir et femme. Alors là,
Série, on voit que c'est possible, en fait. C'est ça qui est drôle, mais il y a tout un tas de péripéties qui font que ça devient possible.
C'est
alors
qu'au
départ, c'est compliqué. Hein. Mais non, finalement... Non. Vous verrez si vous regardez la série. C'est assez excellent, d'ailleurs l'idée est assez excellente.
Mais c'est génial d'interroger ça et de par l'humour,
oui,
par la comédie.
C'est hilarant.
Et c'est très très bien.
Voilà. Marina Foïs d'ailleurs qui joue une candidate écolo fait penser beaucoup à Carole Rousseau par exemple. Vous voyez, il y a des références comme ça. Ah ouais. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
Pablo, une troisième série ce soir.
Allez.
Alors rien à voir.
Cette fois on est parti dans l'espace, les amis. Cette fois, c'est la série Obi-Wan Kenobi,
oh,
en 2022 sur Disney+.
On est des gros fans de Star Wars,
série
ça tombe bien.
Série réalisée par Deborah Shaw. Eh bien oui, mais moi aussi, quand Star Wars revient, je retrouve mon âme d'enfant. Mon palpitant s'emballe à nouveau pour ces guerriers de l'espace. Surtout quand va se jouer le match retour du combat épique entre Obi-Wan et Anakin.
Oh.
Synopsis. L'histoire se déroule 10 ans après la revanche des Sith et 9 ans avant... Un nouvel espoir. Dans une galaxie dirigée d'une main de fer par l'Empire Galactique, elle raconte les aventures du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, dont l'exil sur Tatooine en ermite, où il veille sur Luke Skywalker. Cet exil est perturbé par l'enlèvement de la jeune Leia Organa, le contraignant à reprendre du service. Mais alors les choses se compliquent, car l'Empire s'est doté d'une grande inquisition qui traque sans merci les chevaliers Jedi rescapés, suite à l'ordre 66. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux ordre 66. Or, la troisième sœur, Reva Svander, est à la poursuite d'Obi-Wan et a pour objectif obsessionnel de le capturer et de le livrer à son maître, Dark Vador. Donc, après le magistral épisode 3 de la prélogie, La Revanche des Sith, mon préféré.
Ah bon ?
Ah ouais, pour moi, c'est mon préféré. Et vous ?
Moi, c'est l'Empire Contre-Attaque.
L'Empire Contre-Attaque ?
Ah bah oui.
Romain ?
C'est pareil pour moi, c'est l'Empire Contre-Attaque aussi.
Okay.
La trilogie.
Ah oui,
la première.
Ah ouais. Non, moi, j'avoue avoir vraiment kiffé grave La Revanche des Sith. Mais bon, voilà. Donc, je reprends. Alors, après l'exécution du terrible Ordre 66, j'étais resté sur ma faim. La galaxie avait basculé dans le côté obscur de la Force et beaucoup de zones scénaristiques demeuraient obscures aussi pour moi. Bref, ces zones d'ombre à éclairer ou à éclaircir comme vous voulez. Tous les Jedi ont-ils vraiment été tués lors de l'exécution de l'Ordre 66 ? Comment Anakin Skywalker, mutilé et vaincu, est-il devenu Dark Vador ? Le super-vilain le plus badass de la saga quand même. Et à votre avis ? Je vous pose la question directement. Quelle sera la priorité de Dark Vador ? Qui cherche-t-il à retrouver de façon obsessionnelle ?
Padmé.
Et non, elle est morte.
Ben oui, mais il ne le sait pas.
Il ne le sait pas au départ.
Il ne le sait pas.
Ah oui, mais peut-être qu'il l'a appris depuis. Mais c'est bien Obi-Wan, évidemment. C'est Obi-Wan qui l'obsède.
Il veut se venger.
Et oui, toutes ces questions, en tout cas, trouveront leur réponse dans cette mini-série de 6 épisodes. Et quel plaisir de retrouver l'excellent Ewan McGregor dans le rôle principal. Il interprète un Obi-Wan fragilisé, en doute, hanté par la culpabilité d'avoir échoué dans l'éducation de son padawan Anakin. Souvent hagard, on va néanmoins le voir reprendre du poil de la bête. La Force se réveillera à nouveau en lui. À ses côtés, la petite Leia Organa est un personnage haut en couleur, espiègle, pleine de ressources et d'intelligence, attendrissante et choupie à souhait. Mais alors, une révélation est l'actrice Moses Ingram, déjà en second rôle dans la série Le Jeu de la Dame. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moses Ingram, qui interprète la troisième sœur de l'Inquisition et traque sans pitié les chevaliers Jedi. Plus complexe qu'elle n'y paraît, elle apporte un regain de brio et de drame dans l'action. Bon, il me reste à voir The Mandalorian et Andor, je vous en parlerai prochainement. Bref, les Padawans de la bande Geek Mafia, allez voir la série Obi-Wan Kenobi et que la Force soit avec vous.
Ouais, merci Pablo.
Très bien vendu.
Merci, merci. Et on attend la saison 2 avec impatience.
Yes. Tu l'as vu ?
Ah oui.
Le premier ?
Le premier, bien sûr.
Et t'as aimé alors ?
Que du bonheur.
Ouais.
Que du bonheur.
Voilà.
Oui, il y a un autre film qui se passe entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, c'est Rogue One.
Oui,
j'avais trouvé excellent.
Moi aussi.
Alors, Rogue One, justement, pour essayer de le comprendre aussi en même temps, la série Andor, c'est ce qui se passe juste avant Rogue One.
En fait, il y a trop de choix, il y a trop de séries, il y a trop de films.
Tu l'as vu Andor aussi ou pas ?
J'ai commencé à la regarder, il y a quelques petites longueurs quand même. Il faut dire que c'est aussi sombre finalement que Rogue One. Donc cette noirceur est quand même très très présente et elle est très prégnante. Et avec les longueurs, on a des fois un peu de mal à accrocher quand même.
D'accord. Bon, c'est cool, je m'y mettrai et puis on en
Ah oui, oui.
Super. On fera une spéciale Star Wars. Ah, on invitera Adrien.
Sans problème.
Eh ben voilà.
Un peu de musique les gars ?
Oui. Allez.
Alors, puisque Seb est arrivé, on peut peut-être écouter Muse.
Ah,
vous avez demandé un petit morceau de Muse.
Un petit morceau de Muse.
Hein, ça vous va ? Alors, c'est quel titre ? C'est Uprising, bien sûr, dans Bang Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, Radio G.
Ouh, un petit Muse, ça fait du bien. Merci Seb pour cette proposition.
Et de rien. Un petit coucou à Eric, notre ami Marie. Eric, Marie,
Florence, Marie,
Sarah, Maya,
Tony, Gabi,
Tony, plein de monde,
Rudy, Laetitia.
Bon, bah c'est cool. On continue l'émission avec de la bande dessinée.
Et on a oublié Fred et Daria.
Ah ouais, carrément. Alors, un petit générique, Seb, mais vraiment du classique. Hein.
Bon, du classique. Laisse-moi deviner.
Creature Shock Radio FM.
Alors, qu'as-tu dans ton panier ce soir?
Eh bien, j'ai une seule bande dessinée, en réalité en deux tomes, puisque les deux tomes sont sortis, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment la lire, de Yves Lavandier et Carole Morel, l'institutrice, donc les enfants de Surcouf. Hein. Ça, c'est le tome 2, c'est la seconde partie. La première partie, c'était « Ne fais pas à autrui » et trois petits points. Alors, nous sommes, comme d'habitude, hein, vous doutez bien avec moi, ça va être encore historique un petit peu. Nous sommes en Bretagne, juin 1944, dans la forêt de Ploménéac, les miliciens bretons, affidés des nazis, continuent à traquer Marie-Noël et ses élèves. La solidarité du groupe aura-t-elle raison de la haine de l'autre? Donc, en clair, voilà, on se retrouve donc dans cette Bretagne qui attend avec impatience finalement l'arrivée hein, des alliés. Le débarquement a eu lieu. Et malheureusement, cette milice bretonne qui a décidé finalement d'arrêter un enfant juif, bien sûr, caché au sein de cette école. Et maintenant, que va faire l'institutrice?
Ah. Le mystère.
Ah là là.
Attention.
Paf. Là, je vous laisse découvrir. Honnêtement, c'est une très très bande dessinée, quoi. Une très belle histoire. Graphiquement, c'est carrément génial. Le graphique est sympa, les couleurs sont relativement douces. On a peu de texte, on a beaucoup d'émotions qui passent aussi en même temps. Et puis, au final, on se laisse embarquer très, très, très facilement dans cette histoire, parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce qu'elle va réussir, finalement? Est-ce que l'institutrice va réussir à sauver cet enfant juif? Et d'autant plus qu'elle est obligée d'embarquer aussi une partie de sa classe avec elle. Et donc, là, on part sur un périple. Et avec cet acharnement des miliciens à vouloir absolument arrêter cet enfant, mais voilà quoi, ce n'est qu'un enfant quoi. Wow. Donc très très belle histoire. Honnêtement, moi, je vous le conseille.
Merci. En tout cas, c'est beau, un bel objet.
Tu nous rappelles les références?
Alors, les références, c'est donc Yves Lavandier et Carole Morel. C'est l'institutrice. C'est en deux tomes. C'est aux éditions Albin Michel. Donc ça fait grosso modo 17 euros le tome, mais vous avez une belle histoire, et je pense que d'ici quelques temps, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il nous fasse un intégral en remaniant les deux.
Ne fais pas autrui, trois petits points,
oui.
Et l'autre,
les enfants du Surcouf.
Ah ouais.
Cool, merci Seb.
Surcouf, rapport avec
Le corsaire, effectivement. Ne fais pas autrui, parce qu'en réalité, dans le premier tome, on a tout une histoire autour de cette phrase justement, et après les enfants de Surcouf, donc je vous laisse découvrir.
Merci Seb.
De rien Seb.
Alors j'ai moi aussi exceptionnellement une petite BD que j'ai lue récemment et qui m'a beaucoup plu, alors je voulais vous en parler. Ça s'appelle A Fake Story les auteurs Jean-Denis Pendant et Laurent Galandon. C'est d'après le roman de Douglas Burrow. Alors de quoi ça parle? Alors, on est en 1938, donc un peu avant 1944, le 30 octobre exactement. Orson Welles, que vous connaissez, le grand réalisateur, avant d'être un grand réalisateur, il faisait de la radio comme nous.
Oui. Ah,
oui. Et donc il met en onde sur CBS La guerre des mondes du romancier H.G. Wells. Donc, le dramaturge George Orson Welles, à l'époque, il adapte le roman de H.G. Wells sous la forme de flash info, comme ça, et donnant à la pièce de théâtre une réalité saisissante. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. C'est la panique. Les gens qui écoutent la radio pensent que tout ça est vrai, qu'il y a une guerre qui va arriver, les martiens débarquent. Voilà. Et en fait, cette fausse guerre, elle terrifie le pays, elle terrifie les États-Unis. Et donne aux journaux du lendemain tous leurs titres hein, dans les journaux le lendemain, c'est véridique, il y a les martiens attaquent, enfin c'est la guerre, enfin bref. Bon, alors le livre parle de ça, la BD parle de ça, mais pas seulement. En fait, parle d'un fait divers qui s'est produit à ce moment-là. C'est que pour échapper au massacre des martiens, il y a un homme qui tue sa femme et son fils avant de se suicider. Voilà. Et donc, oui, c'est véridique. Et donc, il y a un ancien journaliste reconnu qui s'appelle Douglas Burrow. qui va mener l'enquête et qui en fera un livre. Voilà, livre adapté. Dont cette BD est l'adaptation.
D'accord.
Voilà. Alors c'est quand même passionnant, ça s'appelle A Fake Story, parce que c'est une fausse histoire, hein, c'est sûr. C'est... Mais ça pose la question du vrai et du faux, encore ouais. Une question philosophique,
exact,
les amis.
Exact, oui.
Question du vrai et du faux. Alors, avec un art, moi, je trouve très réussi, visuellement, hein, je veux dire, c'est très, très chouette, je vais vous montrer. Et une enquête policière, mais alors, incroyable. D'accord. Il y a des rebondissements là-dedans, c'est réjouissant.
Et le fait divers, voilà. Hein, on s'en
rend compte. Le fait divers, mais en fait, c'est pas. En fait, je peux pas trop vous dire les choses, c'est terrible. Mais ça ne se passe pas comme on l'a imaginé au départ, évidemment. Voilà, voilà.
Alors, la vérité est ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est ouais. Le cas de le dire. La vérité, en fait, il faut se méfier des apparences aussi, on pourrait dire ça.
Tout à fait.
Donc, je vous la conseille, c'est très très chouette, c'est chez Futuropolis qui fait mm-hmm. toujours des très belles BD. C'est sorti en 2020, donc c'est pas tout récent, mais honnêtement, on passe un très bon moment. Voilà. On la conseille, A Fake Story.
Donc des mises en abîme, si j'ai bien compris, il y a quand même des choses incroyables là, avec.
Il y a plusieurs mises en abîme.
Ah ouais, c'est ça. Et un mystère. Et
une enquête
incroyable aussi.
Et des rebondissements. C'est ça. Et voilà. Et tout ça est vrai. Incroyable.
Bah merci.
Enfin, tout ça est vrai. Sauf, sauf la guerre des mondes à la radio annoncée par Orson Welles. Mais tout le reste, là, le fait divers, tout ça, c'est vrai.
Le plus grand coup médiatique, hein, quand même, de Orson Welles.
Ah bah, ça l'a rendu célèbre. Ça l'a rendu célèbre. Après, il a pu faire tous les films qu'il a voulu, etc. Bref, aime nos auditeurs et nos auditrices. Alors, on va écouter Miss Yerlou, le Van Geek Mafia sur Radio G. Merci à Eric pour cette suggestion. Miss Yerlou dans Pulp Fiction, bien
ah,
sûr.
Ça met la pêche.
Et non pas dans Taxi.
C'est vrai.
Alors tout de suite, la suite, Romain, tu veux nous parler musique. Est-ce que tu commences par KG Elephant?
Bah ouais. Alors ce soir, c'est vraiment plusieurs coupables parce que ça colle pas vraiment à l'actu.
Pourquoi
pas
coupable, c'est pas coupable.
Bah parce que, pour cette raison, parce que d'habitude, j'aime bien vous donner un petit titre qui est récent, hein, un album qui vient de sortir. Mais là, voilà, c'est réécoute du moment. Et là, c'est issu d'un groupe que j'aime vraiment beaucoup, qui fait vraiment partie de mes groupes préférés, mais vraiment tout préféré, top 5. Et pour la petite histoire, voilà, ce groupe, KG Elephant, c'est vraiment le... Bah, c'est pareil, hein, on a tous nos petites passions. Quand c'est pas Star Wars, quand c'est pas Radiohead, quand... Bon, bah, il y a Nirvana, hein, on en a fait une émission. Et c'est vraiment le groupe qui m'a, après Nirvana, parce qu'il y a toujours les héritiers, hein, il y a toujours, c'est le futur Zidane. Bah, ouais, j'ai toujours eu, on a toujours des groupes qui sont les futurs Nirvana, en tout cas les héritiers. Et ce groupe, j'avais trouvé vraiment une patte, quelque chose de spécial. Alors là, vous entendez le titre issu des premiers albums. qui est un album éponyme, hein, Cage the Elephant, et qui date de 2008, donc ça veut dire que ça remonte un peu. Voilà, c'est un groupe qui s'est formé en 2006, dont je vais vous donner les membres: Matt Schultz et son frère Brad Schultz, Nick Bockrath, Matan Minster, Daniel Tichnor, peut-être qu'il vient du Nord.
J'arrête
Champion, ou voilà, c'est ça. Bref, en tout cas, c'est dur. Alors là, comme le titre ne le laisse pas supposer, ils ont fait. Moi, je les ai découverts pas à travers cet album, mais à travers l'album suivant. Est-ce que vous pourriez me remémorer le nom de l'émission qu'il y avait sur Canal, qui était présentée par Denisot, où de temps en temps il y avait des groupes. Je me demande si Nirvana n'était pas passé.
Si, carrément, c'était Nulle Part Ailleurs.
Ouais, c'était
Nulle Part Ailleurs.
Nulle
Part Ailleurs.
Et c'était
donc Nirvana était passé avec Rape Me.
Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, je les avais vus dans ces émissions-là et je me suis dit, c'est génial, quoi. Et c'est issu de leur deuxième album dont je vais vous donner le titre. Je crois que ça s'appelle Thank You, Happy Birthday, quelque chose comme ça. Et l'album est vraiment génial. Et ça fait vraiment, vraiment penser à Nirvana sur certains aspects. Donc, j'aime un peu moins ce qu'ils font depuis quelques temps. Ils sont quand même relativement prolifiques, puisqu'ils ont quelques albums quand même à leur actif depuis 2006. Ils doivent en être à leur cinquième album, si je ne m'abuse. Et voilà, j'aime vraiment particulièrement ce groupe. Alors je vous conseille, si vous aimez bien le rock, surtout l'album dont je vous ai parlé, qui s'appelle Thank You Happy Birthday, sur lequel il y a des titres géniaux, tout simplement.
Tu m'en avais parlé, j'ai écouté, c'est excellent. Un deuxième groupe, Romain ?
Alors, un deuxième groupe. Ouais, non, mais alors, est-ce que tu as une question ?
Non, je disais que la voix était vraiment splendide.
Et
je trouve qu'il y a, un bon. Enfin, voilà, on sent effectivement ce côté grunge qui est là, ouais.
Eh ben, t'as raison. Alors, si t'aimes ça, je te conseille la deuxième. Vraiment ce que je te dis. Hein. Écoute le deuxième album avec Shake Me Down, qui est une tuerie. Shake Me Down ou Aberdeen. Vraiment, l'album, il n'y a que des groupes.
Deuxième groupe, Romain ?
Oui, un deuxième groupe. Mais oui, tiens. Non, un deuxième groupe. Alors, c'est un groupe belge. Alors là, du coup, rien à voir. Et alors, vous entendez ça en fond. On est sur de la musique du monde. Et faut que je retrouve les deux membres principaux.
Sage comme des sauvages.
Exactement. Et ça date de 2010. Donc c'est pareil, c'est un peu vieux. Mais c'est très doux, très tendre. J'aime beaucoup ce titre, je vous le recommande. Bon, le reste, c'est entre musique du monde et expérimentale, hein. Vraiment, on est loin des choses que je propose habituellement. Et voilà, c'est un groupe belge, tout simplement, formé en 2010 par Ava Carrère, chant et guitare, et Ismaël Colombani, avec pas mal d'instruments particulier que je ne connaissais pas. Mais voilà, c'est à écouter leurs deux albums. Alors on est à l'inverse de ce qu'on avait dit précédemment, pas sur un groupe extrêmement prolifique en termes d'albums, mais c'est à écouter en corrigeant des copies, en faisant un trajet en voiture. Moi, ça me détend à fond, donc je vous conseille.
En buvant une bonne bière,
bien sûr. Par exemple, ouais, vraiment ce genre de choses. Vraiment ce titre en particulier, faites-vous plaisir. Et si vous avez. Les jeunes des villes, ouais. Et je vous avais envoyé aussi un titre il n'y a pas longtemps, hein, avec Comme s'il en pleuvait, qui est un titre super, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Mayra Andrade.
Exactement. Ah bah, si vous pouvez écouter l'autre dans la foulée, si ça vous plaît, vous mettez derrière un Comme s'il en pleuvait de Mariana Andrade et vous passez une belle soirée.
Voilà. Et si en plus on vous met un cornet de frites.
Alors c'est pas du tout belge, Mariana Andrade, c'est on est plus.
Du côté voilà. Du Cap Vert.
Exactement.
C'est du Cap Vert.
Magnifiquement bien du ukulélé.
Je joue très bien du ukulélé.
Le air ukulélé, tu devrais le mettre dans des compètes.
Hein, carrément.
Il y a le air guitare, mais on n'a pas fait air ukulélé.
Bah moi, tu vois, je vais gagner. Ouais, il y a un championnat.
Il y a du talent, jeu.
Creature Shock Radio FM. On termine, Pablo, avec un polar.
Alors, un petit polar que j'ai lu cet été qui s'appelle La Reine du Sud, La Reina del Sur de. D'Arturo Pérez Reverte.
Ah, j'adore cet auteur.
Moi aussi. Et aux éditions Point, actuellement en format poche, il est sorti en 2004. Donc c'est pareil, il date un peu, mais magnifique. Résumé. Nom, Mendoza. Prénom, Teresa. Nationalité, mexicaine. Veuve de Raimundo Davila Parra, pilote d'avion à la solde du cartel de Juarez. Mort assassiné. S'installe en Espagne, probablement à la tête de la plus grosse entreprise de transport de cocaïne et de haschich en Méditerranée, pour le compte du cartel de Medellín, des mafias russes et italiennes. Femme d'affaires redoutable et dangereuse, multimillionnaire, mène une vie discrète, aime le rêve et la solitude en mer à bord de son yacht. Aucune preuve n'a pu être retenue contre elle. Si le cartel mexicain de Juarez ou les autorités états-uniennes de la DEA, Drug Enforcement Administration, ont perdu sa trace en Espagne, pas nous, puisque nous la suivons dans ses péripéties qui l'amènent aux confins de l'Andalousie, face au détroit de Gibraltar. C'est ainsi que la jeune Teresa Mendoza va devenir la Reina del Sur. Sa force, c'est son intelligence et son audace. La finesse de ses intuitions font mouche à chaque fois. Le roman est bien écrit, efficace, il nous tient en haleine. Arturo Pérez Reverte est un maître en la matière. Son roman a été adapté en série La Reine du Sud, actuellement sur Netflix. Je vous en parlerai prochainement.
Cool.
Voilà. Si vous aimez les romans noirs de gangsters et mafieux, si vous aimez les intrigues des cartels, de la drogue, si vous aimez la tequila, alors lisez La Reine
avec
du
modération.
Sud.
Avec modération.
Avec modération. Pero con pasión. Vous passerez un bon moment avec Teresa Mendoza.
Eh bien, merci.
Merci, Pablo.
Merci, Pablo.
Waouh, c'est la musique, ça. Terrible, terrible.
Je pense que Seb est prêt pour un concert, pour tout un concert.
Moi, je suis prêt,
de
un air concert.
Exactement.
Alors moi, je vais vous parler sur cette musique improbable du spectacle de Kian Kojandi, Une Bonne Soirée. Avec Paul, on est allé au Zénith de Nantes. On a été voir Kian Kojandi, que vous connaissez dans Bref, par exemple. Il avait déjà fait un one-man show qui s'appelait Pulsion. Et là, il fait un autre one-man show qui s'appelle Une Bonne Soirée. Et effectivement, nous avons passé une très bonne soirée avec 6200 personnes dans le Zénith de Nantes.
La vache. Ah oui.
Donc, Kian Kojandi est populaire. Voilà. Et en fait, il parle beaucoup de sa vie, de son expérience de comique, et de ses cheveux, de ses parents, de d'où il vient, parce qu'il est iranien d'origine. Ouais. Voilà, et il parle de tout son parcours, des rencontres qu'il a faites. Et surtout, comme il raconte la meilleure soirée de sa vie. Et la meilleure soirée de sa vie, c'est un soir où il a rencontré deux femmes. Il a rencontré deux femmes, il s'est passé des choses. Alors pendant deux heures, il nous raconte cette soirée et il fait des digressions, il fait des retours en arrière sur son histoire et on comprend mieux comment fonctionne ce personnage. Et c'est très très drôle. Voilà, je vous conseille d'aller voir.
Et tu peux pas nous dire de qui il s'agit.
Non,
ah,
je peux pas.
Ça gâcherait.
Pas divulgâcher.
Exact.
Je ne divulgâcherai pas.
Bravo, c'est bon. Bravo à toi.
Pendant ce temps-là, on écoute M-Lock Springs, Girlfriend. Petite découverte musicale, merci Seb. Romain,
est-ce que c'est un indice sur les deux femmes qu'il a, parce que c'est girlfriend que...
Oui, c'est ça. Ah. C'est parce qu'en fait, il y a une de ses copines, une des deux femmes qui est une de ses copines, mais une comment dire, comment ils disent,
un plan, une sex friend.
Voilà.
Ok.
Voilà. Comme exactement. Disent les gens, je connais pas.
C'est bien, Romain, il a fait le lien entre le spectacle de Kian Kojandi et la musique. Là.
Bravo. Bien joué. Bien joué, Romain.
C'est un métier, les gars.
Ah ouais, ouais.
À bon point.
Mais c'était pas évident.
On est comme on fait.
Ah, ça fait du bien de faire une petite émission. Il reste 4 minutes, les amis. J'ai une petite découverte musicale, est-ce que ça vous dit ?
Ah non, mais vas-y.
Alors c'est Adi Oasis, c'est une chanteuse qui est un peu dans le style soul, jazz. J'ai découvert ça sur, je crois que c'est dans Quotidien. Et honnêtement, bah, c'est pas mal du tout. Bright one, bright one.
Bye.
coup, je sens que ça vous a plu.
Oh oui, oh,
c'était
oui.
magnifique.
C'est chouette, hein, c'est ouais. Adi Oasis avec Multiply.
Ouais.
Bon les gars, c'est déjà la fin de cette émission.
Eh déjà.
On embrasse tous nos auditeurs et toutes nos auditrices.
On multiplie les bisous.
On multiplie les bisous.
C'est ça.
Voilà. Restez à l'écoute de Radio G. Tout de suite, la suite.
Gros bisous, ciao ciao.
Ciao ciao ciao.
Bonne soirée à tous. Salut.